franceinter.fr.
Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près.
Et à la une de la science, des bonobos, pas très sensibles, paraît-il, en tous les cas selon cette étude, à la bienveillance entre un bon samaritain et un goujat. La préférence du bonobo ira peut-être souvent au second. Un résultat qui a étonné les chercheurs de l'université américaine Duke. Ils ont mené une série d'expériences avec des bonobos adultes du sanctuaire Lolaya en République démocratique du Congo. Et au final, avoir des alliés dominants serait une stratégie plus payante pour ces primates. Cette étude est parue dans la revue Current Biology. On en parle, Agnès, avec notre invitée.
Chélie Massy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes primatologue, vous travaillez au laboratoire d'éco-anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, les auteurs de cette étude se disent surpris par ce comportement des bonobos qui préfèrent s'allier à des rustres. Vous, ça vous étonne aussi?
Oui, c'est sûr que c'est étonnant parce que les bonobos sont nos cousins les plus proches vivants et sont aussi les plus, entre les chimpanzés, les grands singes, sont les plus altruistes, on peut dire. Ils partagent plus la nourriture avec les autres, même avec des individus qui sont étrangers. Ils coopèrent aussi un peu plus que les chimpanzés avec les autres individus. Donc, les auteurs ont essayé de tester l'hypothèse qu'ils pouvaient préférer, ils pouvaient avoir une préférence comme l'homme, des individus qui sont altruistes, prosociales.
Et comment ils ont fait pour tester ça? Alors justement, dans cette étude, on voit qu'ils n'ont pas forcément un comportement très altruiste. Hein. Comment ils s'y sont pris pour le démontrer?
Non, il semble, les résultats des différentes expériences semblent montrer qu'ils préfèrent des individus qui, en fait, sont plutôt en compétition. Donc, les individus qui sont antisociales, qui essayent de empêcher quelques actions des autres. Mmh. Par exemple, ils ont testé plusieurs expériences. La première expérience est très, on peut dire, artificielle, je trouve, parce qu'ils ont posé un écran en face d'un iPad, en face de bonobo, avec un film, avec deux formes. Et il y avait une forme qui voulait, vous imaginez, un rond avec deux yeux qui veut monter sur une colline.
Une sorte de Pac-Man, hein?
Oui, une sorte de Pac-Man. Et après, il y a un triangle qui arrive qui l'aide à monter. Une autre vidéo était un carré qui essayait de l'empêcher le rond de monter sous la colline.
De lui mettre des bâtons dans les roues.
Exactement. Et donc, après, les bonobos ont dû choisir entre les deux figures, mais qui étaient présentées sous forme de papier. Donc, aussi, il y a cette transposition dans l'écran sous forme de papier. Et ils ont choisi plus l'individu qui n'aidait pas l'autre. Donc l'individu qui empêchait le
bonobo, le vrai bonobo, montrait l'individu dans ses écrans qui n'était pas le plus sympathique, on pourrait dire les choses comme ça.
Il ne le montrait pas dans l'écran, mais il pointait sur un papier qui représentait l'individu méchant, on peut dire, l'individu qui aidait l'autre. Et ils ont trouvé que les adultes bonobos, au contraire des enfants humains de 3 mois, qui normalement, ils vont choisir, même déjà à 3 mois, l'individu qui aide l'autre à monter. Et après, dans une deuxième expérience, ils ont essayé de faire une expérience un peu plus dans des conditions naturelles. Donc, il y avait des acteurs humains qui jouait avec un peluche qui tombait et il y avait un humain qui essayait de l'aider et à reprendre le peluche et l'autre qui enlevait le peluche de la main de l'expérimentateur.
Donc, il préfère le voleur à celui qui ramasse la peluche pour lui rendre, c'est
exactement.
Ça? Exactement.
Même une fois. Dans cette condition, il y a ça. Ouais. Mais on peut dire que peut-être, si je ne suis pas sûre qu'en face d'un bonobo, donc un con spécifique qui l'aide, par exemple, à faire quelque chose ou ne l'aide pas, je ne suis pas sûre que le choix sera le même. Ouais.
Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut être très prudent par rapport à ce type d'études? Parce que là, on est en train de critiquer la méthode aussi, fondamentalement.
Hein. Oui, c'est sûr que normalement, c'est difficile d'étudier ce type de thématique, de questions au milieu naturel, conditions très naturelles.
Parce qu'il faudrait les répéter, et ça, c'est très compliqué, évidemment.
Exactement, il faut le répéter et avoir un échantillon statistiquement valide. Ouais. Donc, il faut faire des expériences dans des milieux plus fermés, mais il faut faire attention d'avoir des conditions un peu plus naturelles pour que le répertoire du comportement de l'animal est vraiment expressé de façon naturelle et pas artificielle. Parce que même je travaille avec les pygmées Haka, leur façon de voir l'environnement qui est tridimensionnelle d'ailleurs et pas bidimensionnelle comme on voit dans l'écran, est différente de notre
perception
qui est vraiment formée par notre culture occidentale.
C'est ça. Au sein même des êtres humains. Hein, donc
oui, ils sont des êtres humains qui vivent dans des conditions totalement différentes des chasseurs-cueilleurs. Donc on ne peut pas penser qu'il peut appliquer et les mêmes règles et il peut avoir la même vision des choses.
Mais quel serait l'intérêt des bonobos à choisir plutôt un grossier personnage qu'un sujet bienveillant?
Oui, donc en effet, cette étude montre aussi que les bonobos ont une préférence vers les individus qui sont dominants. Et normalement, la dominance vers un autre individu est associée dans une façon aussi à la capacité de voler, d'être dominant, voler des choses à les autres. Donc, les auteurs expliquent le résultat comme c'est plus préférable être associé à un individu qui est fort, qui a du pouvoir, plutôt qu'un individu faible. Donc, j'ai une préférence pour l'individu qui est plus fort.
Et ça paye plus.
Oui. Et donc, je pense que ça, en réalité, on le retrouve aussi chez l'homme. Si on pense à la politique, aux politiciens, c'est toujours mieux d'être associé à l'homme, à la personne qui est plus forte, qui a plus de pouvoir, plutôt qu'à la plus faible. Donc, je pense que les bonobos ne sont pas très différents, en fond, de l'homme.
Ouais. Merci beaucoup, Chélie Massy, en tout cas, pour cet éclairage, hein, parce qu'on a besoin. On voit des grands titres comme ça, on se dit, ben voilà, les bonobos, ah bon, ben pourquoi ils préfèrent les individus moins agréables et plus méchants que ceux qui pourraient les aider? Ben, il faut être très prudent par rapport à ce qu'on peut lire. Et c'était aussi l'idée de vous inviter aujourd'hui. Vous êtes primatologue, vous travaillez au laboratoire d'éco-anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et on vous réinvitera pour parler aussi d'études que vous menez sur tout un tas de primates pour en savoir plus justement sur leur capacité à comprendre ce qui se passe au sein même de leurs propres espèces. Merci beaucoup d'être passé cet après-midi et Agnès, à très bientôt.
Merci à bientôt.
Merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une bombe cyclonique. Le terme peut faire peur. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours à propos de la tempête qui frappe le sud-est des États-Unis. On parle aussi de tempête explosive ou de bombe météo. Alors, est-ce une formule racoleuse? Peut-être pas. Elle n'en demeure pas moins d'ailleurs vraiment scientifique. Son vrai nom, bombogénèse explosive, est utilisé depuis les années 80. Ce terme désigne une dépression en saison froide qui provoque vagues de froid, chutes de neige et vents forts, mais qui surtout répond à des critères précis. Il faut que la pression chute de plus de 24 millibars en moins de 24 heures. Or, jeudi et aujourd'hui, la pression a baissé de 43 millibars, soit presque le double du critère minimal. Le sud-est des États-Unis est donc bien en présence d'une bombe cyclonique. Plus au sud, du côté de la Guyane, on ne parle pas de bombe, mais de saison des poussières, en référence aux poussières du Sahara qui balaient le territoire. L'alerte à la pollution déclenchée hier vient d'être relevée d'un cran aujourd'hui. L'Observatoire régional de l'air prévoit un indice maximal de 10 sur une échelle de 1 à 10. Ces brumes du Sahara se déplacent de l'Afrique vers l'ouest de l'Atlantique par un courant aérien baptisé couche d'air saharien. La qualité de l'air est médiocre depuis le 26 décembre et ces poussières pourraient affecter les voies respiratoires des habitants. Pour l'instant, leurs effets sur la population ne sont pas étudiés. Et puis certains vous diront qu'elle est très simple à réaliser et pourtant elle est une énigme pour les chercheurs. La mayonnaise, son contenu épais et visqueux intrigue toujours. Pourquoi ce mélange d'huile et de jaune d'œuf augmente-t-il autant la viscosité de façon aussi spectaculaire qu'imprévisible? Eh bien, un professeur de physique chimie vient d'améliorer une équation de 1929, l'équation de Jones-Dole, pour affiner les conditions de réaction de la mayonnaise, le niveau de concentration critique à partir de laquelle elle se produit en fonction du mouvement des amas d'ions. Ces résultats décrits comme l'effet mayonnaise sont publiés dans le Journal of Physical Chemistry Letters, mais rassurez-vous, ils ne vous seront pas utiles pour en faire monter une à la maison.